Bonjour, vous êtes bien sûr
Radio Vassivière.
À l'écoute de
Élève-toi
avec les enfants.
Une émission pour les parents et les professionnels de l'enfance et de l'éducation, tous ceux qui ont envie de s'élever auprès des enfants, afin de les accompagner avec justesse et leur permettre de donner tout leur potentiel dans ce monde. Bonjour, ici Émilie au studio de Feltin. Bienvenue pour cette 46e émission de
Élève-toi
avec les enfants.
Vous êtes bien à l'écoute de
Radio Vassivière.
Et oui, maintenant c'est chaque samedi à 16h sur Radio Vassivière. On se retrouve ensemble pour parler des enfants. Enfin, c'est toujours moi qui parle, hein. D'ailleurs, j'ai lancé un appel à vos contributions et j'ai reçu quelques réponses. Je remercie les 5-6 premières personnes à avoir répondu à cette question qui est « Si vous aviez la possibilité d'apparaître pendant 20 secondes auprès de l'adolescent, adolescente que vous avez été, qu'est-ce que vous lui diriez ?» Qu'est-ce que vous feriez pendant ces 20 secondes? Allez, envoyez-moi vos réponses à emilie.roudier23@gmail.com. Et je vous remercie. Et si vous êtes ado, la question c'est, vous avez une baguette magique qui fait que pendant 20 secondes, l'adulte que vous serez vers l'âge, allez, disons 45 ans, vous apparaît. Qu'est-ce que vous lui demandez? Qu'est-ce que vous attendez de lui? Je vous remercie. Alors, les deux émissions précédentes, qui sont écoutées, je le répète comme à chaque fois, en replay sur le site de radiovassivière.com à l'onglet émission Élève-toi avec les enfants, j'ai fait une lecture du chapitre qui s'appelle Interposer une limite du livre Écoute de Patty Whipfler et Tasha Shore aux éditions J.C. Lattès, disponible à la médiathèque de Feltin en tout cas, et maintenant elle a pu se promener puisqu'elle appartient à la BDP de Guéret, donc toute la Creuse. Voilà, voilà. Et aujourd'hui, eh bien, je vais continuer, sauf qu'avant, j'ai envie de vous raconter une histoire. Oui, j'ai déjà dit dans plusieurs de mes émissions que j'étais bien d'accord avec tous ceux qui disaient que les contes, les mythes et les légendes sont très importants à la construction des enfants. Et pas que d'ailleurs, pas que des enfants, hein, des adultes aussi, ça marche. Et voilà, j'ai découvert ce livre qui s'appelle « Des trésors pour la vie » de Claire Chanteperle aux éditions Prosveta, collection Znaya. Hein, bon, ça vient de Bulgarie, tout ça, donc je ne suis pas très bien sûre de la prononciation. Et il y a dedans 3 contes et 4 chansons, un CD avec 4 chansons. Je vous ferai aussi écouter la chanson qui va avec ce conte. Je trouve que ce livre est magnifiquement illustré. Vraiment, les dessins sont très inspirant, très beau, très harmonieux, les couleurs très très belles et harmonieuses, voilà. La première histoire que j'ai envie de vous lire aujourd'hui s'appelle « Le secret du soleil ». Alors, en introduction de ce livre, on peut lire qu'il a été écrit en hommage au maître Omra Mikhail Ivanov. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous avez déjà entendu parler de lui. Et les textes et illustrations de ce livre sont le développement de quelques histoires choisies parmi toutes les fables, légendes et anecdotes dont le maître avait l'habitude d'égayer ses conférences. Le caractère poétique et imagé de ses récits d'inspiration morale en faisait la matière idéale de contes pour enfants. D'ailleurs, Omram disait lui-même que ce qui avait été le plus important sans doute dans son éducation, dans son enfance, ce sont toutes les histoires, les contes que lui racontait sa grand-mère. C'est parti pour le secret du soleil. Tous pensent pouvoir changer les choses à leur manière. Seul le soleil connaît le véritable secret. Il était une fois 3 amis inséparables, le vent, la pluie et la neige. En hiver, ils font un travail magnifique. Ils préparent le printemps. La pluie nourrit le sol et les sources. Le vent enlève les feuilles mortes des arbres et fait place aux bourgeons. La neige protège les semences. Ainsi, la terre, au printemps, a des habits tout neufs. Quand les 3 amis ont fini leur travail, ils courent dans la campagne avec des cris de joie. Ils inventent des jeux. à cheval sur les nuages, à cache-cache dans l'arc-en-ciel, la ronde avec les feuilles, la marelle sur l'eau du lac. Mais ce qu'ils préfèrent, c'est jouer des farces aux paysans. Faire envoler leurs chapeaux de paille, retourner les parapluies, mouiller les souliers ou faire déborder le ruisseau devant la ferme. Et ils sont heureux, et même encore plus heureux, quand on rit avec eux. Un matin d'avril, un peu frais, le printemps était là. Lucas, le fermier, sortit devant sa porte. « Regarde-nous, Lucas, nous sommes déjà là !» disent les violettes en fleurs. Lucas ne voit rien, il ronchonne. « Brrr, encore de la froidure et du vent ! Vertuchou, c'est pas permis d'embêter les braves gens de cette façon-là. Mais moi, avec mon gros manteau d'hiver, je n'ai peur de rien ni de personne. Il ne me quitte jamais. Lui et moi, on est inséparables. » Il s'emmitoufle dans son énorme manteau fourré et part sur la grande route au marché du village pour y vendre son lait et son beurre. Mais le vent, la pluie et la neige ont entendu ces paroles désagréables. Floc, floc, dit la pluie, regardez-moi ce bougon qui veut garder son gros manteau au printemps. Ouhou, dit le vent, on va s'amuser à le lui enlever. Chut, dit la neige, on va bien voir qui gagnera. Le vent rabat le capuchon, soulève les pans du manteau, la pluie se faufile dans les coutures, la neige se glisse dans le col et les manches, rien n'y fait. Lucas le fermier serre plus fort son manteau sur son gros ventre en grommelant. Assommé, saperlipopette de saperlipopette. Et plus les trois amis le bousculent, et plus il résiste. Or, vous savez bien, en avril, dès qu'il pleut, il refait soleil. Et dès qu'il refait soleil, il repleut. On appelle cela les giboulées. Voilà justement le soleil. Entre deux nuages, il jette un regard brillant et amusé sur les champs mouillés. Et que voit-il à l'entrée du village ? Un ours ? Non, c'est notre Lucas qui s'avance en grognant vers la place du marché, poursuivi par la neige, la pluie, le vent acharné à lui arracher son manteau. Quel spectacle ! Le fermier ressemble à une grosse bête en colère, le poil hérissé, cramponné à son panier pour ne pas tomber. « Qu'est-ce qui se passe ?» demande le soleil qui a déjà tout deviné. « Nous avons juré de lui faire enlever son manteau !» répondent les trois amis. « Oh, vous avez raison, dit le soleil, le printemps demande des habits nouveaux. Mais vous n'avez pas bien su vous y prendre, à mon tour d'essayer. » Le soleil sourit. Non, pardon, le soleil sortit des nuages en souriant et il commença à déployer ses rayons doucement, doucement. Et ensuite, il se mit à rire dans le ciel bleu et à rayonner de plus en plus fort la chaleur et la lumière, tant et si bien que l'on se crut très vite en été. Lucas, tout en mitouflé jusqu'au cou, a chaud, trop chaud, si chaud, qu'il laisse tomber son manteau avec soulagement. Le soleil envoya un clin d'œil malicieux aux trois amis. Maintenant, le vent, la pluie, la neige ont compris la belle et lumineuse leçon que leur a donnée le soleil, et ils lui disent merci. Ce que ne peuvent la force et la violence, l'amour et la douceur le réussiront. Allez, je redis cette dernière phrase. Ce que ne peuvent la force et la violence, l'amour et la douceur le réussiront. Voilà pour la lecture de cette histoire des trésors pour la vie de Claire Chanteperle. Et je vous fais tout de suite écouter la chanson qui va avec. C'est parti!
Même s'il a beaucoup à faire, même s'il a beaucoup de soucis, jetant un œil sur la terre, parfois le soleil est bien surpris.
Oh oui.
En remarquant notre tristesse, nos longues mines allongées, nos forces en perte de vitesse, il lui dit, je descends les stimuler.
Et s'il rayonne, rayonne, s'il rayonne, rayonne, c'est parce qu'il rit, il rit, il est joyeux. Et s'il rayonne, rayonne, et s'il rayonne, rayonne, c'est parce qu'il ne se prend pas au sérieux. Il nous dit tra-la-la-la, crépitant dans l'univers, je suis le plus grand enfant de joie, la-la-la-la. là. S'il rayonne, rayonne, et s'il rayonne, rayonne, c'est parce qu'il rit, il rit, il est heureux. Même s'il a beaucoup à faire, même s'il a beaucoup de soucis, jamais, jamais le désespère de voir qu'un fruit n'a pas mûri. Si notre vue est un peu courte, si notre cœur est desséché, si notre main est un peu lourde, il dit, je descends les éclairer. Et s'il rayonne, rayonne, et s'il rayonne, rayonne, c'est parce qu'il rit, il rit, il est joyeux. Et s'il rayonne, rayonne, et s'il rayonne, rayonne, c'est parce qu'il ne se prend pas au sérieux. Il nous dit tra-la-la-la, crépitant dans l'univers, je suis le plus grand enfant du choix, la-la-la-la. Et s'il rayonne, rayonne, et s'il rayonne, rayonne, c'est parce qu'il rit, il est heureux. Et s'il rayonne, rayonne, et s'il rayonne, rayonne, c'est parce qu'il rit, il est joyeux. Et s'il rayonne, rayonne, et s'il rayonne, rayonne, c'est parce qu'il ne se prend pas au sérieux. Il nous dit tra-la-la-la, crépitant dans l'univers, je suis le plus grand enfant de joie, la-la-la-la. Et s'il rayonne, rayonne, et s'il rayonne, rayonne, c'est parce qu'il rit, il est heureux.
Et voici « Et s'il rayonne », la chanson qui va avec l'histoire que je viens de vous lire dans le livre de Claire Chanteperle, « Des trésors pour la vie ». Alors, avec le retour du printemps, prêt pour laisser l'amour et la douceur du soleil nous apporter de nouveaux habits. Alors, en nouveaux habits pour les parents, le livre « Écoute » de Patty Whipler. Allez, je reprends où j'en étais. Donc, résumé de l'épisode précédent. Les enfants ont besoin de règles. Waouh, bravo. Il ne s'agit pas d'être dans une éducation laxiste. Il ne s'agit pas de ne pas mettre de limites, de ne pas être responsable vis-à-vis du comportement de ses enfants. Il s'agit d'en mettre une limite de manière intelligente, hein, claire, juste, douce, appropriée. Donc, si vous n'avez pas écouté les précédentes, bah, allez-y, faites pause et puis écoutez-les. Si vous êtes dans votre voiture, bon, peut-être que ce sera quand même intéressant d'écouter ce que je raconte. Vous verrez bien, sinon vous pouvez toujours tourner le bouton et écouter France Musique. Interposer une limite avant de s'énerver. Et oui, avant, hein, avant, là, juste avant, hein, c'est tellement mieux avant. Parce que souvent on dit, faut être patient, oui. Mais en fait, si la patience, ça fait qu'on ne met pas la limite et qu'on en arrive à s'énerver, ça, c'est pas du tout un usage intelligent de la patience. Hein. La patience, c'est après savoir écouter, c'est savoir répéter, mais c'est pas savoir attendre que le n'importe quoi se passe. Notre erreur, la plus courante, est d'espérer contre toute attente qu'un malaise qui macère sous nos yeux partira tout seul. Bon, si on a la baguette magique d'Harry Potter, ça peut-être. Parce que nous fermons les yeux sur une montagne de preuves, nous espérons que nos enfants ne s'enverront pas de coups de pied sous la table ce soir, comme ils le font tous les soirs depuis 6 semaines. Nous nous crispons par avance, rien qu'à l'idée du dîner. Aspirons au miracle, et nous nous sentons terriblement découragés et en colère quand les coups de pied commencent. Interposer une limite efficace demande au moins 50% de planification. Au moindre soupçon de contrariété, si tu te branches sur le ressenti de ton enfant, tu seras plus chaleureuse, plus flexible, et ton enfant aussi. À la seconde où les choses semblent virer à l'orage, quelques minutes de câlins, de jeux ou de chahuts peuvent orienter le reste de la journée dans une autre direction. Le soleil. Ton enfant préfère nettement se sentir relié à toi plutôt que de se préparer pour la bataille. Pour réussir ce virage en douceur, tu peux faire des plans spécifiques aux problèmes récurrents en prévoyant d'interposer une limite dès le premier signal d'alerte. Interposer une limite en s'amusant. Si ton enfant n'est pas trop contrarié, l'humour est une façon réjouissante de montrer une limite. Rien ne fait plus plaisir aux enfants qu'une bonne occasion de rigoler. Utilisez l'humour pour les sortir de leur ornière comportementale, mais toute la famille de bonne humeur. Par exemple, tout en extrayant physiquement ta préado de la salle de bain, tu peux lui dire « Ah, la voilà ma fille chérie, tu es mignonne comme tout, ton videur de salle de bain est arrivé. Allez, on avance, attention, miroir du couloir, nous arrivons, chouchou !» Elle roulera les yeux au ciel et répondra « Tu es la mère la plus bizarre que je connaisse. » Mais elle avancera, vous résistera peut-être un peu pour rire, en grangeant au passage le bénéfice d'avoir ri. L'affection dans votre voix lui ira droit au cœur. Le câlin énergique est une autre façon de fixer une limite avec humour. Il s'agit de combiner un non avec un contact à la fois affectueux et vigoureux, par exemple une course-poursuite qui se termine par un câlin. Le câlin énergique joue avec la tendance qu'ont les parents à promettre des conséquences à chaque comportement en dehors des clous. Ton enfant fait une bêtise et au lieu d'en faire une affaire d'état, tu lui profères une menace pour de faux. Cela marche mieux si tu montres ton enthousiasme à pourchasser ton jeune délinquant. Voici une mère qui a utilisé cette stratégie face au caractère difficile de sa fille un jour de fête. Elle n'est pas arrivée jusqu'au câlin, mais elle a su provoquer les rires dont ses enfants avaient besoin pour retourner la situation. Le jour de la fête des mères, mon mari et moi avons emmené en randonnée nos trois enfants âgés de 7, 10 et 11 ans. Mes filles adorent marcher pieds nus. J'ai dit à la plus jeune d'entre elles qu'elle le pourrait, mais que je prendrais ses chaussures dans mon sac à dos. Quand ma fille aînée m'a annoncé qu'elle ne trouvait pas ses chaussures de rando, j'ai répondu que ce n'était pas un problème, elle n'avait pas besoin d'en porter. Nous avions déjà marché un moment quand la plus jeune de mes filles a appris que sa grande sœur n'avait pas eu à emporter de chaussures et cela l'avait vraiment énervée. Elle en a fait tout un pataquès, répétant que c'était injuste. J'ai dit qu'elle avait raison, que ce n'était pas juste et que j'étais désolée, mais que, puisqu'elle ne les portait pas et n'était pas obligée de les mettre, je ne voyais pas le problème. Alors au passage, hein, là je m'arrête, je lis plus. Je suis désolée, je m'excuse, hein, je demande pardon, je m'excuse, mais être désolée, non. Bah non, je suis, c'est une formule magique, on va pas être désolée, c'est quand même embarrassant. Je reprends. Ce raisonnement n'a eu aucun effet sur elle. Elle a continué à nous rebattre les oreilles avec cette injustice. La moutarde me montait au nez parce que je sentais que ma fête des mères était sur le point de mal tourner. Mais je me suis souvenue des outils d'écoute. D'une voix exagérément autoritaire, j'ai dit... Ah oui, bien sûr que tu as dû apporter tes chaussures alors que ta sœur n'en a pas eu le droit. C'est parce que je suis la reine sorcière et que je pose des règles différentes pour chaque personne de la randonnée. Ma fille a levé les yeux positivement intéressée. Eh oui, ta sœur a eu interdiction d'apporter des chaussures. Si elle l'avait fait, elle aurait eu du souci à se faire. Et toi, eh bien, tu as été obligée de prendre des chaussures. Mais tu n'as pas le droit de les enfiler, quoi qu'il arrive. Et ton frère, eh bien, il a l'obligation de porter ses chaussures pendant au moins la moitié de la rando. Et ensuite, il a le droit de les enlever, mais il n'a plus le droit de les remettre. Elle était pendue à mes lèvres. Elle m'a demandé. Et papa ? Lui ? Alors lui, il a interdiction de retirer ses chaussures, quelles que soient les circonstances, sinon il devra affronter la colère de la reine sorcière. Voilà comment j'ai complètement retourné la situation. Les enfants ont passé le reste de la randonnée à enfreindre absolument toutes les règles de la reine sorcière, et chaque fois qu'ils le faisaient, je leur courais après, mais sans jamais les attraper. À un moment, après avoir pourchassé mon fils qui avait désobéi en se rechaussant, je me suis retournée et j'ai vu ma fille de 7 ans avec au pied les énormes godillots de son père. Ha ! Comme la colère de la reine sorcière fut grande contre ses sujets. Peu après, j'ai fait semblant de faire la sieste pendant que mes filles me piquaient mes chaussures et me les cachaient. À quel rogne, tout l'après-midi, les rires et les fous rires se sont succédés. Après quoi, nous nous sommes tous sentis très soudés. Je pense que la randonnée a été un vrai succès parce que le numéro de la reine sorcière, avec ses règles absurdes et arbitraires, mettait en scène le problème d'équité qui avait déclenché la contrariété de ma fille. Quand tu interposes une limite avec humour, ton enfant voudra tester cette limite encore et encore. Il aime être stoppé de cette manière. En réponse à un comportement débordant, tu apprendras à masser, pourchasser, bondir, faire semblant de te battre, tirer la langue bruyamment, avec le bruit d'un prout, c'est même mieux, proclamer de majestueuses menaces et te lancer dans toutes sortes de chahuts. Le message que tu offres à tes enfants est le suivant. Je sais que vous êtes de chouettes gamins, peu importe le comportement à la noix que vous me montrez en ce moment, attention j'arrive. Les enfants adorent. Si l'on écoute la sagesse conventionnelle, utiliser le jeu pour mettre des limites à un comportement encouragerait les débordements au lieu de les restreindre. J'ai pour ma part constaté que quand un enfant se sent déconnecté de ses parents, quand il a besoin d'être assuré sur leur amour, il fera exactement ce qu'il faut pour obtenir un câlin énergique. Aux yeux des autres, l'enfant donne l'impression de s'être mal comporté. Mais dans le langage affectueux que ton enfant et toi auraient développé, il t'aura lancé une invitation à jouer et à vous connecter l'un à l'autre. Parfois, sa faim pour une limite ludique et joyeuse dépasse ta capacité à la satisfaire. Aujourd'hui, tu n'es pas d'humeur à jouer. Tu peux interposer une limite plus sérieusement en le contenant, en restant avec lui et en écoutant jusqu'à ce qu'il trouve quelque chose d'autre à faire. S'il a besoin de pleurer, il pleurera, ce qui renforcera le lien entre vous. Définir nos attentes. Si ton enfant est coincé dans un comportement difficile depuis un bon moment, tu as besoin de redéfinir tes attentes vis-à-vis de lui pour l'extraire de son ornière. Définir tes attentes, ce n'est pas sorcier, mais cela ne portera ses fruits que si tu as investi du temps pour construire une relation affectueuse avec lui. Si tu veux qu'il te fasse confiance avec les énormes émotions qui l'ont enlisé dans cette ornière, il a besoin de sentir que tu es à fond derrière lui. Voici quelques idées pour t'aider à exprimer tes attentes efficacement. Tu peux t'entraîner lors de situations simples, par exemple en demandant à ton enfant d'apporter son assiette dans l'évier quand il a fini de manger ou de ranger ses jouets sur les étagères s'il a terminé. Travailler sur tes émotions vis-à-vis de tes attentes. Si tu te sens obligé d'annoncer tes attentes à ton enfant, c'est qu'il les a déjà déçues plusieurs fois. Chacune de ces déceptions a soulevé des émotions en toi, tu aideras d'autant mieux ton enfant si tu exprimes d'abord ses émotions avant de reformuler tes attentes. Un bon partenaire d'écoute peut t'aider, comme nous le verrons au chapitre 7, le partenariat d'écoute, ou aussi dans l'émission, je ne sais plus combien c'est le numéro, peut-être 20, 21, 22, que j'ai faite avec Chloé Saint-Guilhem, formatrice à cette approche. Partager tes attentes à l'avance. Il est judicieux de décrire une nouvelle attente comme un projet qui aura ses hauts et ses bas pour ton enfant comme pour toi. Il a besoin de soutien, mais aussi sans doute d'affronter tes attentes à plus d'une occasion et de s'énerver autant de fois que nécessaire. Il s'agit donc pour toi de lui montrer de nombreuses fois tes attentes. Tu peux le faire avec des termes positifs. La semaine prochaine, à la fin de la journée, je te demanderai de ranger tes jouets. Peut-être que tu n'aimeras pas le faire, mais je t'aiderai. Ensuite, ce sera ton travail à toi, comme je fais les courses parce que c'est mon travail à moi. Troisième point, donc là on a vu travailler sur tes émotions, partager des attentes à l'avance. Utiliser les outils d'écoute pour se connecter à l'enfant. Tu peux passer un petit temps particulier avec lui avant le moment où un comportement exemplaire est nécessaire. Ou recourir à l'outil du jeu écoute décrit au chapitre 6. Tu le laisses exprimer ses réticences et tu lui réponds avec humour de manière à provoquer ses rires. Par exemple, s'il s'enfuit quand c'est l'heure de ramasser ses Legos, tu l'attrapes dans tes bras, tu le ramènes dans sa chambre et tu lui dis « Mais tu les adores tes Legos, ils sont si beaux, celui-ci mérite d'être ramassé, tenu précieusement et d'être posé sur cette jolie étagère. » Il se sauvera de nouveau, mais il rira de plus belle quand tu le ramèneras et chantera les louanges de ces magnifiques Legos au fur et à mesure qu'il les rangera en pile. Le temps particulier et le jeu écoute aident ton enfant à se connecter à toi. Tu lui envoies le message que ta requête n'est pas urgente, au point de te faire oublier que tu l'aimes. Après avoir ri avec lui, tu peux reformuler plus sérieusement ton attente. Et avancer. Point suivant. Quand la proximité affective est établie, exprimez l'attente. Puis, restez écouté. À ce stade, tu peux annoncer avec entrain « Bon, c'est l'heure de ranger tes Legos !» en espérant que ton enfant pleurera un bon coup. S'il décampe, tu peux l'attraper et le prendre sur tes genoux en lui disant « C'est l'heure de ranger tes Legos, je resterai avec toi si c'est dur !» C'est le moment de t'installer auprès de ton enfant, de le laisser se tortiller, se plaindre jusqu'à ce qu'il trouve son chemin jusqu'à ses larmes, ou qu'il lutte contre toi et transpire à grosses gouttes. Il n'est pas pertinent de le forcer à quoi que ce soit, même pas à toucher un Lego. Tout son travail consiste à maintenir sa concentration sur ses émotions du moment, tout ton travail. Les Legos sont là. La boîte vide est là. C'est un tout petit travail, il ne prendra pas beaucoup de temps. Quand tu seras prêt, je t'aiderai. En dirigeant son attention sur la tâche à effectuer, tu l'aides à exprimer ses émotions. C'est le moment d'écouter. De temps en temps, tu peux lui demander doucement « Es-tu prêt ?» Tôt ou tard, il le sera. Un enfant dont les pleurs ont été accueillis peut accomplir la tâche attendue de lui avec joie et peut-être même montrer de la créativité dans sa façon de faire. Le sentiment de connexion change tout. Voici une histoire où l'expression d'une attente aide l'enfant à avancer. Mon fils de 9 ans prend des cours de piano. Ces 6 derniers mois, alors que ça lui plaisait avant, il a cessé d'en jouer pour ses copains et il n'aimait plus travailler son piano à la maison. Il ne progressait plus. Un jour, son professeur nous a indiqué qu'il avait besoin de travailler davantage. Dans la voiture, sur le chemin du retour, j'ai commencé à sermonner mon fils. Il ne pipait mot et se sentait visiblement tout penaud. Je me suis forcée à me taire, je m'en voulais de lui faire la morale. J'ai dû fournir un gros effort pour garder pour moi mes pensées, puis je lui ai demandé pardon et j'ai gardé le silence jusqu'à notre arrivée à la maison. J'ai eu le temps de retrouver un peu mon calme. Et oui, souvent la première chose à faire, se taire. À la maison, j'ai demandé à mon fils si nous pouvions parler des leçons de piano. Il a accepté reculons. Cette fois, j'ai fait tout mon possible pour éviter de lui dire « Si tu ne travailles pas, autant arrêter les cours hein. » Ce que ma mère me disait quand j'étais petite. Je me suis assise près de lui, je l'ai regardé dans les yeux et je lui ai demandé calmement comment l'aider à s'entraîner tous les jours. Mon fils a commencé par se plaindre. De son frère qui l'embêtait, de l'injustice d'avoir à travailler son piano pendant que son frère avait le droit de s'amuser. J'ai écouté et je n'ai pas dit ce qui me brûlait la langue. C'est faux. Je lui ai demandé de nouveau, calmement, « De quoi as-tu besoin ?»« Je suis sûre que tu peux y arriver. » Là, il s'est mis en pétard et il m'a rétorqué. « Tais-toi, laisse-moi tranquille et pars !» Je lui ai répondu. Je veux vraiment comprendre comment t'aider à travailler ton piano. Je suis sûre que tu peux t'entraîner tous les jours. J'ai campé sur ma position, mais en même temps, je me demandais si j'étais toujours motivée par ma propre déception ou si je lui offrais enfin un vrai soutien. J'ai volontairement choisi une posture d'écoute et de confiance plutôt que de le gronder, j'ai pensé. Bon, il sait quoi faire et en réalité, il veut le faire, mais pour une raison ou une autre, il ne peut pas. Très vite, mon fils pleurait. Il sanglotait, me disant que ce n'était pas juste et que c'était de ma faute. Je suis restée à l'écoute. Il a pleuré, assis devant le clavier du piano et j'étais tout près de lui. Après environ 15 minutes, j'ai dû m'occuper d'autre chose et il ne pleurait plus aussi fort. Je lui ai annoncé que j'avais besoin de passer à autre chose et je me suis levée. À ma grande surprise, peu après que je me sois éloignée, il s'est mis au travail de lui-même. Je n'en croyais pas mes oreilles. Depuis cette soirée, il s'est entraîné sur son clavier presque tous les jours, parfois de son propre chef, d'autres fois avec mes encouragements, ceux-là même qui ne servaient à rien auparavant. Travailler son piano n'est plus une corvée pénible, quelque chose s'est allégé, je vois bien que mon fils joue parce qu'il aime ça et en a envie. Cela a changé ma façon de penser à la musique, j'ai arrêté de lui dire « C'est l'heure de pratiquer ton piano !» au profit de « Oh, j'ai envie de t'écouter jouer de la musique, tu peux jouer un morceau ?» J'ai réussi à lui faire dépasser ce quelque chose qui l'empêchait d'aimer jouer de la musique. Nos enfants sont prédisposés pour l'amour, le respect et la justice. Nos interventions réfléchies pour limiter leur débordement et l'écoute que nous leur offrons dans la foulée leur procure exactement ce dont ils ont besoin. Mais cette approche des limites prend du temps, surtout au début, parce que les mémoires émotionnelles des enfants sont encombrées d'émotions qui n'ont pas eu l'occasion de s'exprimer. Tandis que tu aides ton enfant à se délester de cette charge émotionnelle, il te sera sans doute nécessaire de reporter certaines choses que tu avais prévu de faire. Le temps que tu investiras à interposer des limites et à écouter ton enfant t'évitera bien des soucis à l'avenir. Il se rapprochera de toi plus libre de ses souffrances et plus solidement en sécurité. Il est judicieux de s'engager dans les trois étapes de l'outil interposer une limite sans précipitation. Tu peux être fier de chacun de tes succès. Les petits pas sont importants. Dans la partie 3 des solutions à tes difficultés du quotidien, tu liras une grande variété de situations où les parents dont le niveau de stress est semblable au tien et où ils ont associé limite et écoute avec un succès remarquable. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Oui, j'ai lu un petit truc là que je me dis que c'est intéressant de revenir dessus. C'est un moment, son fils, il lui répond « Tais-toi, laisse-moi tranquille, pars !» Ça me rappelle une situation où j'ai vu un petit bambin de 2 ans et quelques... dire à son papa « va-t'en ». Alors que justement, c'était parce que son papa était parti qu'il n'était pas content et que quand il revient, il lui dit « va-t'en ». Et là, oui, évidemment, je dis « oh, t'as envie de jouer avec papa ». Et le papa dit « bah non, tu vois bien, il me dit « va-t'en ». Et ben oui, ce qui me paraissait en fait évident, je me suis rendu compte que ça ne l'était pas. Ce n'est pas parce qu'un enfant dit « va-t'en, pars, je veux plus te voir » et qu'il s'en va lui-même, qu'il ne veut plus nous voir, peut-être même bien au contraire. Il a besoin de nous à ce moment-là. Hein? Donc c'est pas parce qu'il nous fait dégager, hein, même, c'est pas parce que lui il fuit qu'il a plus besoin de nous, je dirais même que c'est souvent un appel à l'aide. Alors dans la manière d'être et de faire avec lui, on fait attention bien sûr à comment on va faire, mais voilà, ce n'est pas parce que l'enfant nous dit part qu'il n'a pas besoin de nous, bien au contraire, mais il a besoin de nous dans cette attitude décrite ici. Petite anecdote, alors nous c'est pas les coups de pied sous la table, c'est le stress pour la quantité. il en a eu plus que moi, j'en ai passé, voilà. Qui font déraper les repas. Et donc j'ai essayé ce petit truc à midi, c'est qu'en arrivant, j'ai dit à un de mes fils, celui qui était là en premier, pendant 3 minutes tu me donnes des ordres et je fais tout ce que tu veux. Temps spécial, donner des ordres. Et donc là pendant 3 minutes, il me donne des ordres, mets mon couvert, mets mon assiette ici, mets mon couteau, coupe mon endive, nanana. À la fin, je propose un câlin, il n'en veut pas, mais c'est pas grave. Hein? Et c'est bon, il est bien pour le repas. Et quand le plus grand arrive, je lui propose ça aussi. Et là, il dit non, mais j'aurais peut-être dû insister parce qu'il était trop affamé, soi-disant. Et là, après, ça a déraillé. Bon. Eh bien, voilà. Donc, avant la situation où on sait que ça peut être un peu tendu, proposer un temps spécial, voilà, top chrono 3 minutes, par exemple, tu me donnes des ordres, ou juste temps spécial, on fait ce que tu veux, ou venir mettre un « je écoute hein? ». Donc, s'il y a une parole qui est dite en rentrant de l'école qui est pas, ou sur laquelle on peut rebondir, jouer au professeur tournesol qui comprend de travers et puis rigoler, et ben bingo, voilà. Donc, l'idée, c'est de mettre de la connexion avant le moment où on sait qu'il y a des choses pénibles qui montrent leur nez. Voilà, voilà. Et ben j'espère que je vous ai raconté des trucs intéressants. C'était la 46e émission de
Élève-toi
avec les enfants. Radio Vassivière.
Voilà, et c'est une...
une émission de Émilie, ma maman.
Eh bien, ce qui serait chouette, c'est si vous avez des questions Hein, si vous m'écoutez raconter tout ça et que ça vous fait penser à des petites anecdotes, des choses que vous vivez où c'est pas clair, envoyez-moi vos questions. Ça serait super pour moi d'y répondre. Alors, si vous voulez, on reste anonyme. Hein, je vous appelle Chantal ou Jean-Bernadette. Je ne sais pas, peu importe. Mais on change votre prénom, il n'y a pas de souci. Mais ça serait chouette d'avoir vos questions. Et puis moi, ça me permettrait de savoir qu'il y a quelqu'un de l'autre côté. Allez, je vous souhaite une magnifique journée, une journée de Pâques. C'est la résurrection de la nature. Regardez chacune de ces fleurs, les bourgeons qui sont là, la renaissance complète. Ouf, ça fait du bien. Allez, excellente journée à vous et à bientôt.